À l'épreuve de l'histoire.
Merci, Monsieur le Président, et merci doublement. Merci aussi de m'avoir convié. Et merci à Marc Fumaroli aussi de son invitation à participer à vos travaux. J'en suis à la fois honoré et passionné parce que c'est un réel sujet pour chacun d'entre nous, aussi bien venu de l'histoire littéraire que de l'histoire tout court, hein, que d'essayer d'étudier ces hommes de pensée, de savoir, de science, confrontés au mouvement de l'histoire avec un H majuscule, l'histoire en train de se faire. Merci triplement parce que actuellement je travaille plutôt sur le second XXe siècle et vous m'avez donné l'occasion de réfléchir à nouveau en préparant cette séance à ce premier XXe siècle et plus précisément à cet entre-deux-guerres. Alors je me dois dans un premier temps de justifier le choix du sujet. Les organisateurs, dans leur grande générosité, ont accepté ce thème, Raymond Aron, mais il me faut ici, dans un premier temps, si vous le voulez bien, justifier la place de Raymond Aron, qui ne s'impose pas. Pourquoi ? Parce que Raymond Aron est né en 1905, donc c'est un jeune intellectuel, c'est un tout jeune membre de la République des Lettres dans l'entre-deux-guerres, et donc peut-être que l'échantillon ainsi mise en place sous le microscope, ne convient pas, n'est pas représentative, comme on dit dans le langage contemporain. Et pourtant, il m'a semblé que, de fait, cet échantillon Raymond Aron avait une valeur de représentation, même si je montrerai dans un instant sa singularité en même temps. Et c'est autant par son aspect représentatif que par sa singularité, et vous verrez pourquoi je semble mettre en avant une manière de paradoxe, c'est à travers cette ambivalence, en quelque sorte, du personnage par rapport à notre sujet, qu'il y a là, me semble-t-il, un beau sujet pour ce début d'après-midi. Alors, encore faut-il maintenant, par-delà la déclaration d'intention, décliner les raisons qui font de Raymond Aron un objet intéressant pour notre sujet. La première raison, c'est que, je le disais, il est né un peu après le tournant du siècle, il est né en 1905, donc il n'a pas connu la configuration de la République des Lettres d'avant 1914. Donc il arrive déjà d'emblée directement à l'âge de la formation intellectuelle, à l'âge de la capillarité vers des lieux d'influence intellectuelle, il arrive dans cette République des Lettres déjà dans la tourmente, pour reprendre le thème de notre rencontre. Et donc, il arrive sans passé. C'est un homme sans passé, de par son âge, par rapport à notre sujet. Alors que la plupart des personnes, des personnages, des auteurs, des écrivains, des universitaires que nous avons évoqués depuis hier matin sont des gens qui arrivent dans notre configuration historique avec déjà tout un passé. Donc, c'est déjà, de ce point de vue, un premier motif d'intérêt. Il y en a d'autres. Le deuxième motif d'intérêt, c'est qu'il arrive donc dans une République des Lettres qui est en recomposition après le déluge de la Première Guerre mondiale. Si j'emploie une métaphore quasi biblique en parlant de la Première Guerre mondiale, c'est que je pense que par rapport au thème qui nous réunit, c'est-à-dire la tourmente, cette tourmente, de mon point de vue, a commencé dès 1914. Et d'ailleurs, on a là une forme extrême, en quelque sorte, de tourmente. Et les années 20, à cet égard, sont plutôt des années de recomposition. Et j'essaierai justement de voir comment cet homme jeune, dans les années 20, va tenter de s'insérer dans cette République des Lettres en recomposition dans les années 20. Et ce qui est intéressant, c'est que si je suis cet homme jeune, dans les années 20 puis dans les années 30, je vois à travers lui deux configurations successives. La première, nous voyons un homme qui s'insère dans une République des Lettres qui apparemment, dans un premier temps, se stabilise, s'apaise, retrouve une forme d'équilibre. Mais, et nous le verrons à travers le personnage, dans un second temps, à partir du début des années 30, le même Raymond Aron, par rapport aux convictions, aux opinions, aux analyses qu'il avait mises en place, qu'il avait acquises tout au long des années 20, l'homme va être contraint à une sorte de reconversion intellectuelle très douloureuse, je vous le montrerai, mais qui lui apparaît nécessaire. Donc, d'une certaine façon, et j'en ai terminé avec cette trop longue introduction, Raymond Aron nous apparaît comme une sorte de papier chimique par rapport à notre sujet. C'est-à-dire qu'il rend compte de deux colorations successives, une coloration qui tourne dans un premier temps vers un apaisement apparent et une coloration qui se fait beaucoup plus vive quand revient le temps de la tourmente dans les années 30. Donc je voudrais, si vous le voulez bien, tour à tour évoquer ces deux points et commencer donc par un jeune intellectuel dans une république des lettres en recomposition dans les années 20. Je l'ai dit en commençant, c'est à l'époque un jeune adulte, il est né en 1905, il appartient donc à la génération de l'après-guerre. C'est essentiel de le signaler car, à quelques années près, il aurait pu appartenir à ce qu'on appelle la génération du feu. Je vous rappelle que les gens mobilisés l'ont été jusqu'à une date de naissance qui est aux alentours de 1899-1900. Lui, il est né en 1905. Donc, à 5 ans près, il est épargné par le coup de faux de la Première Guerre mondiale, le coup de faux sur l'ensemble de la société française, mais notamment sur le milieu intellectuel. Il faut bien garder ça en tête parce que ce coup de faux, il a été terrible, vous le savez les uns et les autres, mais pour le sujet qui nous occupe, la République des lettres, les retombées démographiques, si j'ose dire, de ce coup de faux sur la République des lettres sont essentielles, elles sont saisissantes, elles expliquent même le métabolisme ensuite de cette République des lettres. Je m'explique. Prenons par exemple l'école à laquelle appartient à partir de 1924 Raymond Aron, c'est-à-dire l'école normale supérieure. Quand on regarde son monument aux morts, il y a 239 noms qui sont portés sur ce monument aux morts. Sur ces 239, 211 appartiennent aux promotions au pluriel qui sont en scolarité à l'école au moment de la déclaration de guerre, c'est-à-dire les promotions 11, 12 et 13. 211. Et si on fait le calcul, si on rapporte ce nombre de 211 aux effectifs de ces trois promotions à la fois littéraires et scientifiques, on s'aperçoit que ça représente 51%. C'est-à-dire que ces trois promotions ont leur sein 51% de tués. Je ne fais même pas allusion, si vous voulez, aux blessés avec des blessures plus ou moins graves. Donc, vous le voyez, je parlais tout à l'heure de démographie, il y aura comme une échancrure au flanc de la pyramide des âges du milieu intellectuel après la Première Guerre mondiale. Il faut bien avoir en tête que quand nous réfléchissons sur cette République des lettres, c'est non seulement une République des lettres affectivement, spirituellement, intellectuellement affectée, mais c'est aussi une république des lettres échancrée sur le plan démographique. Je vais prendre un autre exemple, l'établissement dans lequel j'exerce actuellement, Sciences Po, qui s'appelle à l'époque l'École libre des sciences politiques. Je n'ai pas de statistiques à vous faire valoir, mais je voudrais vous montrer l'ampleur de la mobilisation. Pendant l'année universitaire 13-14, c'est-à-dire l'année universitaire qui précède l'été 14, il y a en scolarité à l'École libre des sciences politiques 800 étudiants. Pendant l'année universitaire suivante, c'est-à-dire 14-15, celle qui suit la déclaration de guerre, celle qui suit la mobilisation, il n'y a plus que 72 étudiants à l'École libre des sciences politiques pendant cette année universitaire. Donc vous voyez l'ampleur de la mobilisation. Il y a fort à parier que dans ce milieu aussi, l'échancrure en quelque sorte, dans ce milieu de l'École libre des sciences politiques, aura été entre-temps très fort. Donc vous le voyez, c'est important et ça, je le disais tout à l'heure, des conséquences sur le métabolisme de notre République des lettres. Pourquoi ? Parce que cette République des lettres ainsi, entre guillemets, martyrisée, mutilée, quitte à bien des égards, qui a perdu une partie de ses forces vives, des intellectuels à venir en quelque sorte, en même temps, elle est devenue de façon quasi mécanique plus fluide. Puisqu'il y a une génération manquante, puisque les gens qui auraient eu, on va dire, 30 ou 35 ans en 1930, beaucoup ne sont pas là. Et donc, et je reviens à Raymond Aron, la génération suivante, la génération de 1905, celle à laquelle appartient Raymond Aron, celle qui a 20 ans au milieu des années 20, qui a à peine 25 ans au seuil de la décennie suivante, cette génération-là, elle est aspirée plus rapidement vers les lieux d'influence intellectuelle, par un phénomène quasi mécanique. On le retrouve d'ailleurs dans tous les milieux. Raymond Aron, je vais le dire dans un instant, appartient à l'époque à une mouvance de gauche socialisante, si vous voulez. Mais dans les milieux maurrassiens de l'Action française, c'est exactement la même chose. Quand on regarde le destin d'un jeune cadet de Raymond Aron, de 4 ans son cadet, Robert Brasillach, qui entre à l'école normale supérieure 4 ans après donc Raymond Aron, mais on s'aperçoit que Brasillach, dès la fin des années 20, alors qu'il a à peine 20 ans, est un des rédacteurs du journal L'Action française, et au début des années 30, il n'a pas 25 ans, il tient une partie de la page littéraire de l'Action française, qui est une page, à l'époque, extrêmement prestigieuse. Donc, vous le voyez, il y a ce phénomène de capillarité dont va, d'une certaine façon, bénéficier également Raymond Aron. Et donc, revenons, si vous le voulez bien, plus directement à Raymond Aron. Donc, l'homme est né, je vous l'ai dit, en 1905, et il est reçu brillamment à sa première tentative à l'École normale supérieure en 1924. Il a à l'époque 19 ans et 3 mois au moment où les résultats sont proclamés. Vous le savez, cette promotion littéraire normalienne de 1924 jouit rétroactivement d'une sorte de prestige parce que c'est la promotion de Jean-Paul Sartre et de Raymond Aron. Sur le moment, ce sont deux jeunes gens, l'un venu de la Cagne de Willegrand, Jean-Paul Sartre, l'autre venu de la Cagne de Condorcet, Raymond Aron, qui choisissent l'un et l'autre, sans se connaître d'ailleurs à l'époque, de faire partie de la petite section de philosophie de l'École normale supérieure. À l'époque, il y a une trentaine de reçus chaque année qui répartissent entre les différentes spécialités littéraires, et en général, les philosophes sont entre 4 et 6 dans chacune de ces promotions des années 20. C'est le choix, je l'ai dit, de Sartre, c'est le choix de Raymond Aron, et 4 ans à peine plus tard, en 1928, Raymond Aron est reçu brillamment premier à l'agrégation de philosophie. Je signale au passage que Jean-Paul Sartre, la même année, est recalé dès l'écrit du concours, mais il prendra, si j'ose dire, sa revanche l'année suivante, puisque en 1929, à son tour, il est reçu premier à l'agrégation de philosophie. Mais laissons de côté Sartre, même si nous le retrouverons peut-être un petit peu plus loin, et revenons à Raymond Aron. Raymond Aron, donc, à cette époque, est un brillant sujet de l'université française sur lequel un certain nombre de patrons de la Sorbonne fondent des espoirs au demeurant légitimes, puisque c'est un homme qui, incontestablement, a réussi pour l'instant tous ses exercices académiques. Et ce qui est intéressant, c'est que, parallèlement à cette carrière universitaire qui s'amorce, parallèlement à ce statut de brillant sujet, on sent chez lui un souci, non pas de carriérisme effréné, mais un souci de s'insérer dans cette république des lettres, pour reprendre l'expression qui nous réunit depuis hier matin. Et on le voit à quelques indices, je n'en prendrai que deux, qui ont un rapport direct avec notre sujet. Le premier indice, c'est qu'il va participer aux décades de Pontigny. Alors, qu'est-ce que les décades de Pontigny ? Les décades de Pontigny, ce sont des réunions, comme leur nom l'indique, d'une dizaine de jours, qui se tiennent au cœur de l'été, et qui sont organisées par un professeur de Cannes qui s'appelle Paul Desjardins, qui avait acquis au début du XXe siècle une abbaye cistercienne, et qui tient, à partir de 1910, donc chaque été, des décades. Alors, des décades, c'est intéressant pour notre sujet, parce que ce sont des décades où se retrouvent des intellectuels, ou des écrivains, ou des universitaires, peu importe l'appellation, car au demeurant, ces réunions sont très multiples, en quelque sorte, à la fois sur le plan générationnel et sur le plan des origines socio-professionnelles des gens qui y viennent. Mais ce qui est intéressant, c'est que la diversité est aussi une diversité de nationalité, car ce qui fait l'intérêt de ces décades de Pontigny, c'est que dès leur création, elles réunissent, c'est même l'une de leurs fonctions, des intellectuels français et des intellectuels étrangers. C'est essentiel, et vous voyez qu'on retrouve ce qui a été évoqué à plusieurs reprises depuis hier, cette sorte de cosmopolitisme intellectuel d'avant 14, que de mon point de vue, la guerre de 14 a très largement cassé, qui permettait à un intellectuel français, j'y reviendrai tout à l'heure, d'aller en Allemagne, même si le régime politique à l'époque n'est pas le même, et inversement, à un universitaire allemand de se rendre aux décades de Pontigny sans que réellement ça tire à conséquence. Cette Europe des voyageurs et des intellectuels voyageurs est une réalité, y compris quand on vient de la Russie tsariste ou quand on va dans la Russie tsariste. Il faut avoir en tête cette fluidité qui m'autorise à parler, dans son général de termes, d'une Europe cosmopolite sur le plan intellectuel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces Descartes de Pontigny vont être cassées nettes, bien évidemment, par la guerre de 14. Elles vont être cassées nettes, c'est facile à imaginer, et elles mettront du temps à repartir, car elles ne repartiront pas en 18, et pour cause, nous sommes encore en guerre pendant l'été 18, ni même en 19, pourtant on a évoqué hier la conférence de Paris, à l'été 19, tout ça est terminé, théoriquement, on est dans une Europe qui recommence sa vie de l'après-guerre, précisément, mais non, il faudra attendre 1922, et on voit, vous le voyez, l'onde de choc, hein, même dans ce milieu d'hommes de bonne volonté que sont les Descartes de Pontigny, incontestablement, l'onde de choc est réelle, est directe et ne se résorbe que progressivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un Raymond Aron qui va venir à deux reprises dans les Descartes de Pontigny. La première fois, c'est quelques semaines à peine après sa réussite à l'agrégation. Je vous ai dit qu'il est reçu au début de l'été 1928 à l'agrégation de philosophie. Et au cours du même été, il se rend à l'une de ces Descartes. Et le thème, cette année-là, il y a trois thèmes. L'un des trois thèmes, c'est temps et éternité. Il y a un autre jeune philosophe à peu près du même âge, Vladimir Yankelevitch, qui lui aussi participe en 1928 à ces Descartes. Et il y revient en 1932. Et en 1932, l'un des trois thèmes, c'est la transmission des valeurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se lance dans un exposé comparatif entre la France et l'Allemagne. Donc, à ce moment-là, en ce début des années 30, tout semble possible. Effectivement, on peut à nouveau non seulement se parler, mais comparer terme à terme, en quelque sorte, le dialogue intellectuel a repris. Deuxième indice de cette entrée, en quelque sorte, dans la République des Lettres, c'est qu'il va se rendre en Allemagne. Et là encore, c'est intéressant parce que, avant 1914, pour un jeune philosophe en herbe, pour un jeune philosophe en apprentissage, pour quelqu'un qui veut soit mener une recherche universitaire, soit forger une conception philosophique, le voyage en Allemagne s'imposait. Le voyage en Allemagne s'imposait, on voit toute une série pour rester au milieu de l'école normale supérieure. D'une part, naturellement, les germanistes vont en Allemagne, mais même les philosophes, c'est un voyage, c'est un détour obligé, en quelque sorte, et un parcours obligatoire que de passer donc en Allemagne. Et on peut incontestablement dire qu'à cette époque, il y a, mais ça a été déjà évoqué à plusieurs reprises hier, une sorte de magistrature intellectuelle ou de magistère intellectuel de l'Allemagne. Certains de mes collègues ont parlé de la référence culturelle allemande ou après 1870 de la crise allemande de la pensée française. Quel que soit le bout par lequel on prend le sujet, incontestablement, il y a cette influence, il y a ce parcours obligé, il y a cette référence. Et d'ailleurs, l'un des maîtres de Raymond Aron, Célestin Bouglet, qui est un des maîtres de la sociologie dans l'entre-deux-guerres, justement, avait fait le voyage dans les années 90 du 19e siècle et a écrit des textes pour dire combien ce voyage avait été formateur. Mais là aussi, ce qui est intéressant pour notre sujet, c'est que l'onde de choc de la guerre se perçoit immédiatement et beaucoup plus que dans les Descartes de Pontigny. Les Descartes de Pontigny m'intéressaient parce que c'est d'une certaine façon une petite pièce de notre République des Lettres, presque caricaturale, mais en même temps représentative. Le voyage en Allemagne est beaucoup plus intéressant. Pourquoi ? Parce que là, l'effet de la guerre y est beaucoup plus massif. Si je prends à nouveau ce petit milieu des Normaliens, on s'aperçoit que ces gens qui jusque-là allaient en Allemagne n'y retournent pas jusqu'en 1927. Nous sommes donc, vous le voyez, 9 ans après l'armistice de 1918. C'est Pierre Berthaud, qui sera un grand germaniste français, un grand résistant par ailleurs, qui le note dans ses carnets en 1927. Il vient à Berlin et dans les carnets qu'il tient à l'époque, il dit « Je suis le premier étudiant à Berlin depuis la guerre ». Alors naturellement, il faudrait bien vérifier, probablement, il serait pris en défaut par tel ou tel exemple, mais globalement, là, l'affirmation est réelle, puisqu'on en retrouve le reflet à travers les textes administratifs. En effet, il y a par exemple un texte de 1927 où le directeur de l'école normale supérieure écrit au recteur de l'Académie de Paris, et il lui parle justement de cette difficulté qu'il a à essayer de réamorcer les voyages en Allemagne. Il en parle au recteur de l'Académie de Paris, puisqu'à l'époque, un recteur d'Académie est en même temps chancelier de l'université du lieu concerné, et donc directement concerné lui aussi par ces voyages des étudiants. Et ce directeur de l'École normale supérieure dit la situation. Alors, il est en train de parler de la question des voyages en Allemagne. La situation est grave et la vie difficile. Là-bas, donc, en Allemagne, pour les étudiants, surtout pour les étudiants en allemand qui ne trouvent que très exceptionnellement des sympathies dans le pays, c'est l'Allemagne, virgule, surtout dans les milieux universitaires. Donc, je vous invite à méditer là-dessus. Nous sommes en 1927, dans ces milieux qui, traditionnellement, étaient des passerelles intellectuelles, des lieux d'échange, on a encore, à cette époque, de l'aveu même des observateurs directement concernés par ces flux, des difficultés. Et donc, par rapport au déluge que j'évoquais tout à l'heure, vous voyez que les eaux sont en train de retomber dans leur lit, mais très, 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 très lentement. En même temps, bien évidemment, et on l'a vu depuis hier matin, la fin des années 20, est le moment d'un changement de configuration historique. Incontestablement, on l'a dit, il y a Locarno, il y a l'entrée de l'Allemagne à la SDN, et on évoquait, vous vous rappelez hier matin, le pacte Briand-Kellogg qui met la guerre hors la loi, 1928. Plusieurs dizaines de nations qui signent un traité qui met la guerre hors la loi. Donc, incontestablement, on a un changement de climat qu'on retrouve dans ce secteur des relations universitaires entre France et Allemagne, qu'on retrouve directement puisque en octobre 1930, ouvre à Berlin un institut français dont l'une des fonctions est d'accueillir une dizaine de jeunes chercheurs français chaque année à Berlin. Je vous rappelle qu'à peine 3 ans plus tôt, Pierre Berthaud disait « Je suis le premier à revenir ici ». Je vous rappelle que, toujours 3 ans plus tôt, le recteur de l'Académie de Paris disait « c'est pas possible actuellement d'établir de réels rapports avec les universitaires allemands ». Et nous retrouvons là Raymond Aron. Raymond Aron appartiendra à la deuxième promotion de cet institut allemand. Il est nommé donc en 1931, donc pensionnaire à l'Institut français. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y arrive donc au moment, apparemment, où cette stabilisation des relations internationales que j'évoquais à l'instant semble porter ses fruits. Et au contraire, et j'en arrive et je serai beaucoup plus rapide au deuxième point de mon exposé, et là encore on va voir que le papier chimique Raymond Aron est révélateur, tout au contraire, disais-je, il va se retrouver en Allemagne au moment où la République des lettres, d'une certaine façon, est à nouveau déstabilisée. Et d'ailleurs, il en fera l'aveu à plusieurs reprises, je vais y revenir, et notamment en ces lieux. En 1970, quand il prononce sa leçon inaugurale au Collège de France, au détour d'une phrase, il évoque sa période allemande, 30-33, je vous dirai pourquoi 30 alors que je viens de dire 31, je préciserai dans un instant. Il évoque donc cette période 30-33 et il dit « Dans l'Allemagne pré-hitlérienne, la montée du national-socialisme, la révélation de la politique en son essence diabolique », rappelez-vous hier ce que nous proposait le professeur Fumaroli, Erasme ou Machiavel, donc la politique en son essence diabolique, m'obligeait à penser contre moi-même, contre mes préférences intimes. Alors, à quoi fait-il allusion? Qu'est-ce que c'est que ces préférences intimes et qu'est-ce que ce retour sur soi qu'il a été contraint à opérer lors de ce séjour allemand? Alors, revenons très brièvement et à gros traits pour respecter le temps de parole qui m'est imparti, revenons un peu en arrière. Je vous l'ai dit, à partir de 1924, c'est un jeune normalien, un jeune intellectuel en formation, et dans un premier temps, il n'a pas d'idée politique particulièrement notable, il est socialisant comme la plus grande partie de la promotion normalienne à laquelle il appartient. Ça n'a rien de très original, même si c'est par ailleurs profondément respectable. Non, ce n'est pas dans ce domaine de ce relatif attrait du socialisme qu'est le très marquant, c'est dans le pacifisme. C'est un homme, quand il arrive en 1924, il vient, je vous l'ai dit tout à l'heure, du lycée Condorcet, de la cagne de Condorcet, mais ce qui est une toute petite cagne à l'époque, qui fait entrer chaque année sur la trentaine de normaliens une ou deux personnes, mais il retrouve des normaliens du lycée Henri IV. Et à Henri IV, qui y a-t-il jusqu'en 1933? Il y a le philosophe Alain. Et le philosophe Alain devient l'un des grands maîtres, en tout cas des symboles. Le théoricien, ce n'est pas exactement le mot qui convient, mais enfin, quelqu'un qui parle et qui incarne, qui parle du pacifisme et qui l'incarne, avec notamment un livre qui s'appelle « Mars ou la guerre jugée ». Et d'une certaine façon, l'admiration qu'ont ses élèves pour lui fait que quand ses élèves arrivent rue d'Ulm, ou même s'ils n'entrent pas rue d'Ulm, quand ils continuent leurs études supérieures, ils sont à la fois très impressionnés par leur professeur, qu'ils appellent l'homme avec un H majuscule, ce qui, pour l'enseignant que je suis, fait frémir à la pensée qu'on puisse tomber dans ce genre de fanatisme vis-à-vis d'un enseignant, mais laissons ça de côté. Ce qui est intéressant, c'est que l'homme, à leurs yeux, leur en impose, notamment par sa stature intellectuelle, son prestige d'enseignant, mais aussi il leur transmet ce pacifisme. Et donc, Raymond Aron va recevoir ce pacifisme, j'allais dire, collatéral, en quelque sorte, de par ses camarades d'Henri IV et parce que l'École normale supérieure baigne dans cette sorte de pacifisme. Et je passe, pour respecter l'heure, ce pacifisme est profond chez lui. Je vous rappelle que c'est le futur théoricien de paix et guerre entre les nations. Mais dans un premier temps, il ramène tout au pacifisme. Les textes sont vraiment des textes de jeunesse, certes, toujours très structurés intellectuellement, mais toujours portés à juger tous les problèmes de la cité à travers ou à l'aune de ce pacifisme. Pour le moment, ça ne tire pas à conséquence. Nous sommes dans la deuxième partie des années 20, au moment où, je vous l'ai dit, petit à petit, le monde se recale, se restabilise, et donc, penser en pacifiste, c'est penser aisément le monde qui vous entoure. Ça ne pose pas de problème. Et donc, il arrive en Allemagne, en 30, avec cet espoir pacifiste et bien plus avec l'idée de se mettre au service de cet espoir, de le transmettre. Il arrive en 30, pourquoi ? Parce que, je vous l'ai dit, c'est en 31 qu'il sera nommé à l'Institut français de Berlin, mais dès 30, il est nommé lecteur de français à l'Université de Cologne. Donc, il sera de la rentrée 30 à l'été 1933 en Allemagne. Je vous rappelle que dès janvier 33, Hitler devient chancelier. Et donc, ce qui est intéressant, en un mot et pour faire vite, c'est que l'histoire de sa période allemande, c'est l'histoire d'un adieu au pacifisme. C'est l'histoire d'un adieu au pacifisme, c'est-à-dire que cet homme, ce jeune membre de la République des Lettres, porteur de ces valeurs de pacifisme qui irradient à cette époque dans un certain nombre de milieux constitutifs de cette République des Lettres, cet homme, par sa propre réflexion, va se trouver contraint, si vous voulez, à penser le monde qui l'entoure autrement. C'est très douloureux pour lui, car cet adieu au pacifisme, c'est un adieu à tout le fondement, en quelque sorte, de sa première réflexion sur le monde qui l'entoure. Je vous lis simplement une phrase. En 1934, il vient de revenir depuis quelques mois, depuis l'été 33, en France, et il dit dans l'un de ses textes, publié en 34, « À l'heure présente, une nation qui refuserait en toutes circonstances la guerre renoncerait à jouer un rôle dans la politique mondiale. » On parlait hier d'Erasme et Machiavel. Vous voyez qu'on a là une mue qui s'opère et un homme qui désormais dit qu'il faut penser le monde tel qu'il est, il faut le penser héroïquement. C'est ce qu'il dit d'ailleurs déjà en 1932 quand il vient, et je retrouve Pontigny, quand il vient à Pontigny et quand il fait cette comparaison franco-allemande, il termine le dernier mot de sa conférence, c'est « il faut penser le monde héroïquement ». C'est-à-dire qu'en 1932 déjà, la mue que j'évoque est déjà très largement à l'œuvre. Donc, l'idée d'un certain nombre de ces jeunes gens, c'est de ces jeunes intellectuels qui ont entre 25 et 30 ans, il en a, vous le voyez, 28 en 33, c'est l'histoire avec un H majuscule, c'est remise en marche. Il faut penser cette histoire, même si elle paraît tragique, même si elle annonce des lendemains qui déchantent. Et il y a un autre intellectuel, et je terminerai presque par là, un autre intellectuel qui lui succède à Cologne. En 1931, quand lui part à Berlin, un jeune intellectuel français qui s'appelle René Maheu. Alors, ce n'est pas négligeable, René Maheu, parce que c'est le futur directeur de l'UNESCO. Et donc, si vous voulez, bon, après, on sera dans une autre configuration qui est la configuration de l'après-Seconde Guerre mondiale, mais René Maheu, à sa manière, deviendra une personnalité éminente de la République des lettres de l'après-Seconde Guerre mondiale. Et donc, à l'époque, il est à Cologne et il dit « Je voulais travailler à cette réconciliation, réconciliation naturellement franco-allemande, et c'est ainsi que je m'appliquais à expliquer à mes étudiants, les étudiants donc allemands, Mars ou la guerre jugée du philosophe allemand, du philosophe Alain, pardonnez-moi, mais bien sûr, ce n'était pas le moment, je partis le jour où brûla le Reichstag. » Donc vous le voyez, et je termine ou presque, on est en face d'un homme, je reviens à Raymond Aron, qui est contraint d'opérer une mue. C'est-à-dire, par rapport à son activité principale qui est de penser, d'abord dans son domaine propre, mais aussi le monde qui l'entoure pour tenter de lui donner du sens, il est désormais contraint de penser autrement. Alors ça arrive à beaucoup d'intellectuels, mais là, le laps de temps durant lequel s'opère la mue est un temps extrêmement bref. Donc quelque chose qui est même affectivement très difficile à gérer. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse davantage, c'est de dire que penser autrement vous met en partie en marche de la République des lettres, dont le temps de réaction est beaucoup plus lent. Hein ? Là, on est en face de deux métabolismes différents. Un homme qui change, on dirait de nos jours, dans le jargon contemporain, son logiciel en 3 ans, hein, par rapport à une République des lettres qui, elle, en tout cas en France, va le faire beaucoup plus lentement. Et donc, ces ruptures intimes et spirituelles d'un certain nombre les mettent un peu en marge. C'est-à-dire que penser autrement, c'est penser contre. Et on va le voir d'ailleurs, je vous citais tout à l'heure le texte de 34. Ben, le texte de 34, il ne trouve pas de revue pour l'exprimer, et il va s'adresser à une revue, théoriquement, qui est une revue universitaire, qui s'appelle la revue de métaphysique et de morale. Et c'est dans cette revue de métaphysique et de morale, en 34, qu'il évoque son changement d'attitude face à la guerre, le texte que je lisais tout à l'heure. Et en 36, même chose, quand viendra le Front populaire, lui, le jeune intellectuel socialisant qui a voté pour le Front populaire, à la différence de Sartre qui n'a pas voté du tout, hein, ce jeune intellectuel socialisant, ben, dès le mois de septembre, il publierait, mais là encore, il ne trouvera qu'un journal pour le faire, la revue de métaphysique et de morale, un article sur la politique économique du Front populaire. On peut penser que ça n'était pas le lieu idéal, ou en tout cas le lieu auquel on penserait en priorité pour évoquer une politique économique, qu'une revue de métaphysique et de morale. J'ai terminé. Je voudrais simplement, en conclusion, si M. le Président m'accorde encore une minute, dire que, vous le voyez, c'est un homme à maints égards singulier. Singulier dans sa démarche, singulier aussi dans sa puissance intellectuelle, mais pour autant, ça ne lui retire pas ce que j'appelais tout à l'heure le statut de papier chimique. C'est-à-dire qu'à travers cet homme, à travers sa mue, à travers sa métamorphose, hein, incontestablement, on a quelqu'un qui a dû gérer cette crise qu'ont éprouvé probablement beaucoup des membres de la République des Lettres. Il l'a gérée, j'y reviens pas, puisqu'il passe d'un moment où on pense que le droit va prévaloir. Rappelez-vous la citation qu'on faisait hier dans l'exposé sur Philippe Berthelot, le discours de Briand en 28 qui dit « arrière les fusils, arrière les mitrailleuses, place au droit à l'arbitrage hein ». C'est une vision intellectuelle, dans le sens noble du terme, de paix et guerre entre les nations. Et on passe, si vous voulez, à un monde totalement déstabilisé où une telle vision, hein, en quelques années, apparaît déconnectée. En d'autres termes, où le logos, le discours construit, la fonction de l'intellectuel cède la place très largement au pathos des leaders populistes, au pathos des angoisses nationales, au pathos de l'irrationnel de l'Allemagne nazie. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que incontestablement pour notre République des Lettres elle-même, vous le voyez que la configuration générale et donc sa place à elle, qui est productrice de logos naturellement et pas de pathos, sa place change. Mais, et c'est vraiment ma dernière phrase, j'attire aussi votre attention sur un autre fait qui, là aussi, va jouer contre la République des Lettres, c'est que le logos lui-même, parce qu'il ne disparaît pas, semble se figer. Les années 30, c'est le temps des idéologies concurrentes et bientôt antagonistes. Hein, et c'est le moment, donc, où on le voit, la République des lettres se trouve aussi morcelée. Je le disais tout à l'heure, avant, on pouvait aller dans la Russie tsariste. À partir de là, très, très souvent, les frontières idéologiques deviennent en même temps des frontières politiques. Nous n'en sommes qu'au début, mais naturellement, après la Seconde Guerre mondiale, plus encore qu'auparavant, ce rôle des idéologies contribuera à fragmenter plus encore la République des lettres. Je vous remercie. Thank you.